Voilà. Notre frère, Mathieu Valentin, donc, à qui j'ai demandé de nous apporter la prédication. Un peu honteusement d'ailleurs, parce que la dernière fois que je t'ai demandé d'apporter la prédication, il y a presque un an, jour pour jour. Et j'ai le souvenir de cette délicieuse prédication fidèle et claire sur la lumière. Lève-toi et resplendis de joie, car ta lumière brille. C'était autour de Noël. Et je voudrais que nous prions pour nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur a posé sur le cœur de notre frère. Nous voulons le bénir et nous voulons vraiment recevoir humblement et avec joie la parole que le Seigneur lui a inspirée et qu'il a reçue. Dieu notre Père, merci pour la diversité des membres du corps du Christ et merci parce que nous pouvons recevoir les uns par les autres. Et ce matin, humblement, nous nous mettons à l'écoute de ta parole à travers aussi ce que tu as suscité comme réflexion, pensée dans le cœur de Mathieu. Nous prions pour que cette parole, Seigneur, trouve un chemin en nous, qu'elle soit nourrissante et qu'elle nous bénisse tous ensemble. Bénis Mathieu et Saint-Esprit, conduis sa parole au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous. Alors, le message de ce matin... Oh, je t'en prie, pas de soucis. En préparant ce message, donc je relisais les différents passages qui parlent de la naissance de Jésus dans les évangiles, qui annoncent également sa venue dans les nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Et au fur et à mesure que je les relisais, le Seigneur a fait doucement remonter sur mon cœur une évidence que on connaît tous, que tous les chrétiens expérimentent chaque jour, mais qu'il voulait nous rappeler ce matin à nous tous, et dans le « nous » je m'inclus à 100%, c'est ceci, c'est que Jésus-Christ est un Dieu proche de nous. Donc voilà, si on pouvait garder un titre qui résumerait l'ensemble du message, c'est que Jésus est un Dieu proche, et proche dans tous les sens du terme. Proche parce qu'il se manifeste à nous, et qu'il se laisse trouver. Proche, parce qu'il nous connaît personnellement, parce qu'il n'est pas étranger à nos souffrances, parce qu'il les a vécues. Proche, enfin, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime que nous passions des moments de qualité, de proximité et d'intimité avec nous. Donc voilà, c'est trois points qu'on va développer également durant ce partage. Alors évidemment, cette proximité de Dieu avec nous, avec l'humanité, elle ne se retrouve pas que dans le récit de la naissance de Jésus, mais dans tout le ministère de Christ, et également c'est d'un bout à l'autre de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, c'est vraiment le message qui est porté, cette tout tend vers Jésus, et également tout le monde la proximité de Dieu avec les hommes. Alors ce matin, vraiment je le crois, c'est là-dessus que le Seigneur voulait attirer à tous notre attention. Je vous propose de commencer par la lecture du premier chapitre de Luc. Nous lirons du verset 68 au verset 79. Donc, un petit mot de contexte. Donc, il s'agit du prêtre Zacharie qui va prendre la parole. Zacharie, c'est un homme qui, à la suite d'une intervention miraculeuse, va avoir un fils. Et ce fils, on le connaît sous le nom de Jean le Baptiste. Voici donc Luc 1, versets 68 à 79. « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. » Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes. On l'a chanté, hein. Il peut tout accomplir. Cette promesse, c'est qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, en étant saint et juste, en sa présence tous les jours de la vie. Donc nous pouvons expérimenter la présence de Dieu tous les jours de notre vie et pour l'éternité. Il se tourne vers son fils et il lui dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Il veut nous arracher à la mort et nous guider sur la voie de la paix. Alors, cet astre levant qui vient pour nous, l'astre levant qui vient pour nous d'en haut. D'en haut. Hein, cela illustre un premier point essentiel sur lequel je voulais vraiment insister. C'est uniquement par en haut que je peux me tenir devant Dieu. C'est par la grâce de Dieu, et ça a été rappelé tout au long de ce matin. Paul l'a lu, mais je veux vraiment le relire également, Éphésiens 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, qui est d'ailleurs donnée par Dieu également. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc si nous nous tenons devant Dieu en ce moment, si Dieu est proche de nous, c'est par pure grâce. Ce n'est pas 50% le Seigneur qui est venu vers moi et moi qui ai fait 50% du trajet. Ce n'est pas 99,999% le Seigneur qui est venu vers moi et moi qui ai fait 0,001%. C'est 100% du Seigneur qui est venu vers moi. Ce n'est pas par ma propre force, par nos propres forces, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est sauvé par grâce, par le don de Jésus, le Fils de Dieu. Donc oui, si Dieu se laisse trouver, c'est parce qu'il le désire. Le Saint-Esprit, donc, par l'intermédiaire de Zacharie, rend témoignage à Jésus en l'associant à cette image de l'astre levant. C'est également ce qui est écrit dans l'Apocalypse. L'Apocalypse 22, verset 16, je crois que ça se termine vers le verset 24 ou verset 20. Donc vous voyez, c'est vraiment l'un des tout derniers versets de la Bible. Et c'est Jésus qui parle et il dit « C'est moi ». L'étoile brillante du matin. Donc, il est significatif que cette image d'un lever de soleil qui chasse au loin les ténèbres, qui ouvre le Nouveau Testament dans l'évangile de Matthieu, soit aussi celle sur laquelle le Nouveau Testament se referme. Comme pour insister sur la nature brillante, éclatante, lumineuse du Seigneur. Cette image, elle fait également écho à de multiples prophéties de l'Ancien Testament. La liste est longue. Je n'en citerai seulement que l'une des plus connues d'entre elles. Et je crois qu'il a été lu également, Ésaïe 9, « Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande, une très grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. » Donc comme un lever du soleil qui chasse les ténèbres, il y a une lumière du Seigneur qui se lève. Et quelle est cette lumière? 4 versets plus tard, le verset 5, la réponse nous est donnée. « Car un fils est né pour nous. » Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Dans la parole, Jésus se présente à de nombreuses reprises comme la lumière du monde. Il dit dans Jean, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et dans 2 Corinthiens, il est dit ceci, en effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Puisque Jésus est la lumière du monde, cette lumière est rendue visible à travers ses enfants. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Et les autres verront le bien que vous faites, ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Donc rayonnons à notre tour, et je m'inclus dedans, rayonnons à notre tour, car avec la lumière de Christ qui brille en nous, nous attirons à Dieu. Dieu se laisse ainsi trouver par notre témoignage. Et enfin, évidemment, lorsqu'on parle de l'étoile et de la naissance de Jésus, évidemment, comment ne pas penser immédiatement à cette étoile qui a guidé les mages vers Jésus? Comment l'aurait-il trouvé sinon sans cela? Matthieu 2, Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile ». et nous sommes venus lui rendre hommage. Je poursuis. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. Et les spécialistes de la loi lui répondirent « On ne sait pas, on n'a eu aucune prophétie dessus, c'est silence radio, impossible. » Évidemment que non. Verset 5 « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Comme l'a rappelé Paul, cette prophétie, elle date d'il y a 800 ans. Il y a 800 ans, pour vous donner un ordre d'idée, avant Jésus, 800 ans avant Jésus, Rome n'existait même pas. Tout ce qu'on a vu, l'Empire romain, on ne parlait pas de ça. C'est que Rome, la ville de Rome n'existait pas, n'avait pas encore été créée, que cette prophétie avait été donnée. Donc, ainsi nous le voyons, Dieu se laisse trouver par sa lumière et Dieu se laisse également trouver par sa parole. Jésus, il est né dans la discrétion, on l'a rappelé, dans une famille pauvre, mais attention, il n'est pas né dans le secret. Sa naissance, elle avait été annoncée depuis des siècles et des siècles au travers de nombreuses prophéties. Le Messie naîtra miraculeusement d'une vierge. Il était également annoncé qu'il naîtrait à Bethléem. Donc tout ça, ça a été accompli. Des anges ont annoncé sa naissance. En termes de signes miraculeux, de manifestations surnaturelles, en voici une. Il se manifeste à des bergers. Sa naissance aussi a été annoncée par une étoile, un signe aux mages. Donc le récit de la naissance de Jésus est jalonné de nombreux miracles, comme autant de signes de ce que le Seigneur se rend visible. Il se laisse trouver, il s'annonce. Et malgré tout, certains pourraient se dire, oui, mais ces signes-là, peut-être qu'ils ne sont pas assez suffisants. L'idéal, ça aurait été que vraiment le ciel s'ouvre, se coupe en deux, qu'il y ait des éclairs, un tremblement de terre, et évidemment, bon, ben, les gens, forcément, se seraient convertis. Mais c'est rien de moins sûr, parce que regardez, Marc et Luc nous disent ceci quand Jésus est mort, je cite, « Il était environ midi quand le pays tout entier, même le mot en hébreu, tout entier, enfin la terre tout entière, c'est le même mot que pays tout entier. Donc on ne sait pas si c'est le pays tout entier ou la terre tout entière. Nos traductions choisissent « quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. » Et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Et Matthieu rajoute ceci. Et voici qu'au même moment, au moment de la mort de Jésus, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. C'est pas tout. Des tombes s'ouvrirent. Et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu, qui étaient morts, ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau. Et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et beaucoup de personnes les virent. En termes de signes miraculeux, est-ce que pour autant les habitants de Jérusalem se sont tous tournés vers Jésus à la suite de ces événements? Est-ce que pour autant les chefs religieux, Anne et Caïphe, est-ce qu'ils se sont tournés vers Dieu? Est-ce que Pilate et ses légionnaires, est-ce qu'ils se sont tournés vers Dieu? Pas tous. Certains l'ont fait. Le centenier romain, qui était au pied de la croix, lorsqu'il a vu cela, il a dit « Certainement, cet homme est le Fils de Dieu. » Mais pas tous. Donc Dieu se laisse trouver par sa lumière, Dieu se laisse également trouver par sa parole, il se laisse trouver par ses miracles, et cela m'amène également au dernier point, Dieu se laisse trouver par tout le monde. Ça a été également rappelé ce matin, à l'instar du centurion romain, les non-juifs et les juifs ont également accès au salut. Dans le récit de la naissance de Christ, les juifs se tournent vers Jésus et le reconnaissent comme étant le Messie. Ce que disait Zacharie dans le texte introductif que nous avons lu, « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. » Ces Juifs sont nombreux dans le récit de la naissance de Christ, qui se sont tournés vers Jésus, qui l'ont reconnu comme Messie. On a Zacharie et sa femme, Élisabeth. On a les bergers. On a plus tard Siméon et Anne, la prophétesse, qui l'ont reconnu lorsque Jésus est présenté au temple. Donc, salut offert aux Juifs et salut également offert aux non-Juifs. Ce même Siméon, il prophétise, lorsque Jésus est présenté au temple, il prophétise ceci. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux, de moi Siméon, ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as, écoutez bien, suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Et plus tard, ce même Siméon, il va prophétiser en disant à Marie, cet enfant est destiné à être une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. C'est le moment où, intérieurement, posez-vous cette question. Et qu'en est-il de moi ? Est-ce que le Seigneur est pour moi une occasion de chute ou est-ce qu'il est une occasion de relèvement ? Et je voulais humblement dire à peut-être des personnes une personne qui n'oserait pas venir au Seigneur parce qu'il se sent peut-être trop sale ou indigne de donner sa vie à Christ. Je voudrais vraiment vous dire, sachez seulement que tous les chrétiens, et ce n'est pas un effet de manche, c'est la vérité, tous les chrétiens dans cette salle et dans le monde entier, ce sont des personnes indignes, uniquement sauvées par grâce. Tu n'es pas plus indigne que moi d'être devant le Seigneur. Dieu te connaît personnellement avant que tu naisses. Il t'a désiré, il t'aime. Il veut te restaurer. Et c'est pour cela qu'il veut se laisser trouver par toi. Romains 5, pour ne citer qu'un verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des gens sales, des gens indignes, Christ est mort pour nous. Donc ne vous empêchez pas de venir vers lui. Ésaïe 55, tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Trop souvent, les personnes qui ne connaissent pas Dieu ont une idée fausse de lui. C'est parfois une image qui revient quand on discute avec les uns et les autres. Parfois, certains ont une image d'un Dieu insensible qui serait un petit peu comme ces statues anciennes dans les temples anciens, une statue qui voit de haut, insensible, distant, austère, froid et impliqué de très, 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 très loin dans les affaires des humains. Et c'est absolument pas ce que la Bible montre. Cette image est fausse à 100%. C'est tout l'inverse. Le Seigneur prend soin de nous et s'intéresse à nous. Il y a un verset qui m'est apparu, que le Seigneur a fait jaillir sur mon cœur pour illustrer ce point. L'homme ne voit que ce qui frappe aux yeux, l'Éternel regarde au cœur. Le Seigneur ne nous regarde pas de loin, il ne regarde pas de haut, en surface, de très loin pour savoir ce qui se passe. En fait, le Seigneur, il s'intéresse à nous en profondeur, il regarde au cœur et il nous aime. Le récit de la naissance et de l'enfance de Christ présente également cette réalité, de cette proximité, de ce Dieu qui regarde au cœur et qui s'intéresse à ce que l'on vit réellement parce qu'il l'a vécu lui aussi. Je listerai 4 points. Il a quitté la gloire du ciel pour se faire homme. Philippiens 2. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Ça, c'est un premier abaissement. Deuxièmement, il est né dans une famille pauvre. Né dans une famille pauvre, et il connaît la pauvreté. Lorsque ses parents le présentent au temple, ils viennent avec un sacrifice requis par la loi du Seigneur, c'est-à-dire une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons. Normalement, c'est un agneau que l'on doit offrir, mais il est prescrit dans Lévitique que si une famille n'a pas les moyens, ils peuvent donner une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons, et c'est le cas des parents de Jésus. Jésus également connaît le rejet et la souffrance. Ça a été un petit peu rappelé par la parole de Bastien, mais dans Ésaïe 63, il est dit ceci. Il a grandi, on parle de ce Jésus, notre Jésus, qui a quitté la gloire du ciel pour venir à nous, et regardez ce qu'il a vécu. Il a grandi devant Dieu comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer notre regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et plus tard dans son ministère, il expérimentera la tentation, il sera cloué sur une croix, il sera rejeté par ses disciples. Voilà pourquoi Jésus peut comprendre nos souffrances, car elles ne lui sont pas étrangères. En résumé, le psaume 34 le dit bien, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le dernier point, Dieu ne nous invite pas à rester loin de lui, loin de sa présence, au contraire, Dieu nous invite à lui parler directement. Dans 1 Corinthiens, il est dit, car Dieu, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Alors, vivre en communion avec son Fils, ça renferme certes d'une part l'idée d'une transformation par le Saint-Esprit, mais vivre en communion avec son Fils, ça veut également dire une dimension de communication intime, d'échange avec Dieu. Ça veut dire être à son écoute. C'est également lui dire nos joies, nos remerciements, nos peines, nos doutes, nos tristesses, nos angoisses, notre incompréhension. On n'ennuiera jamais Dieu avec cela, au contraire. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui discutent avec Dieu et parfois se plaignent de ce qu'ils jugent injuste. On peut citer le cas de Jonas, on peut citer le cas de Job. Dieu est un Dieu qui permet cette proximité. Et cette communication, il la souhaite. Il les écoute, il nous écoute. Rien que ça, c'est un miracle immense, que le Dieu de l'univers m'écoute. Et qu'en plus, qu'il me réponde et qu'il se mette à m'apporter et discute avec moi. Pour illustrer cette communication proche entre Dieu et les hommes, j'ai souhaité prendre comme exemple le chapitre 3 de Malachie. Dans ce chapitre, l'Éternel s'adresse à son peuple qui tient des propos inconsidérés. Donc voici ses propos. Malachie 3, verset 13. « Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel, et vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi ? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes ? C'est pourquoi maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent, tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. » Mais que va faire Dieu face à ce propos ? Est-ce qu'il va tout balayer d'un revers de main ? Il en aurait parfaitement le droit, la légitimité, le pouvoir. Mais non, il les écoute et il leur répond. Écoutez sa réponse. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Donc, je tire votre attention sur ce point. Le Seigneur tient compte de nos vies. Même si on peut avoir l'impression qu'on n'est pas pris en compte, le Seigneur nous aime et nous voit. Je poursuis. Alors à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il annonce la condamnation pour ceux qui ne le servent pas, mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous, se lèvera le soleil de justice qui portera dans ses rayons la guérison. C'est significatif là encore, Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament s'ouvre par la lumière qui vient dans le monde. Il se termine par cette lumière qui se lève sur le peuple de Dieu. Le Nouveau Testament s'ouvre par la lumière qui vient dans le monde et se termine par Jésus qui dit « Je suis l'astre brillant, l'étoile du matin ». Peut-être que certains se trouvent en ce moment même, et je terminerai sur ce point, se trouvent en ce moment même dans une situation de souffrance ou d'incompréhension vis-à-vis du Seigneur. Et si c'est votre cas, le Seigneur vous invite à vous tourner vers lui. Premier point, à vous tourner vers lui. À lui partager ce que vous avez sur le cœur. Et surtout, surtout, à vous réfugier en lui. Dans le récit de la naissance de Jésus, nous voyons deux merveilleux exemples de frères et sœurs qui ont mené une vie consacrée à Dieu, malgré de nombreuses souffrances. Paul parlait d'un témoignage. En voici deux dans la Bible. Le témoignage de Zacharie et d'Élisabeth. On l'a vu. Ils ont un enfant, mais la situation n'a pas toujours été le cas. La Bible nous dit qu'ils étaient sans enfant car Élisabeth était très âgée, tout comme son mari, et Élisabeth était stérile. Et on sait que c'était une souffrance pour eux, pas parce qu'on l'a supposé, mais parce qu'elle le dit clairement, elle-même. Lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle déclare tout de suite « Le Seigneur a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » Donc, en termes de regard du monde, elle aurait toutes les raisons possibles et imaginables pour ne pas se tourner vers Dieu. Et pourtant, quel est le témoignage que la Bible rend d'eux ? Ses frères et ses sœurs, Zacharie et Élisabeth, tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toute la loi du Seigneur de façon irréprochable. Quel exemple. Anne la prophétesse, c'est le deuxième témoignage. Au moment où Jésus est présenté au temple, il y a une femme qui s'y trouve. La Bible nous dit qu'elle était très âgée et que dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Et puis, elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Là encore, c'est une petite précision qui est dans le récit. On pourrait se dire que ça n'apporte rien à la présentation de Jésus. Et pourtant, la Bible insiste sur le fait qu'elle a eu cette période de souffrance particulière. Eh bien, elle aurait toutes les raisons du monde pour se détourner de Dieu. Et pourtant, quel est le témoignage que la Bible rend d'elle ? Elle ne quittait jamais le temple, où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Donc nous donc, qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Jacques 5 nous dit « L'un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu'il prie, qu'il se tourne vers Dieu. » 1 Thessaloniciens nous dit « Priez sans cesse, tournez-vous sans cesse vers Dieu. Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Le dernier point avant de conclure. Ainsi donc, dans la joie ou dans la peine, le Seigneur veut tous nous inviter ici à nous tourner vers Jésus, vers Christ, parce qu'il est proche de nous. Il prend soin de nous individuellement comme un berger prend soin de ses brebis. Ésaïe 40, « Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. » Imaginez, le Seigneur nous prend dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. On a un Dieu qui est plein de douceur. Et il est dit, oui, je te donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie parce que tu m'es précieux, parce que tu as dû prier pour moi et parce que je t'aime. Au moment de conclure, nous voulons tous, Seigneur, ensemble te remercier parce que tu es un Dieu proche. Tu es un Dieu proche qui se laisse trouver. Tu es un Dieu proche qui nous connaît personnellement, intimement. Tu es un Dieu proche qui connaît nos souffrances. Un Dieu proche qui veut une relation avec nous. Un Dieu proche qui nous aime. Gloire à toi, Seigneur. Tu es cet astre levant, cette étoile brillante du matin, ce Messie, ce roi, ce berger, ce Dieu d'amour que nous servons. C'est toi, Seigneur. Amen.
Merci beaucoup, mon frère Mathieu.